L'info continue sur RFI dans 5 secondes. Maintenant, c'est le journal sur la radio du monde.
Il est 9h à Paris, 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Thomas Schnell.
Confusion après l'annonce du retrait américain de Syrie. Donald Trump a promis hier d'enlever toutes les troupes, ce qui a fait craindre la scène internationale pour les alliés kurdes, alors que la Turquie menace de créer une zone tampon au nord de la Syrie. Tollé du monde politique américain, y compris chez les républicains. Le débat sur l'immigration électrise les passions à l'Assemblée nationale. Le débat sans vote s'est ouvert hier. Volonté d'Emmanuel Macron, il voudrait que la France ne soit pas trop attractive et en même temps qu'on accueille mieux les réfugiés relevant du droit d'asile. Un hommage, une clé USB et encore beaucoup de questions ce matin, 5 jours après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Et les victimes recevront tout à l'heure la Légion d'honneur à titre posthume, alors que l'enquête se concentre désormais autour d'une clé USB qui contenait des informations sensibles. Un désastre en puissance aux États-Unis. Les républicains n'ont pas de mots assez forts après la décision de Donald Trump de retirer les soldats américains du nord de la Syrie et de laisser ainsi les alliés kurdes en première ligne face aux Turcs. Un choix contesté jusque dans son propre camp. Donc, les Kurdes ont joué un rôle crucial dans notre combat contre le groupe État islamique. Les laisser mourir est une énorme erreur, estiment plusieurs élus républicains à Washington, Anne Corpé.
Le départ annoncé des troupes américaines inquiète de nombreux élus républicains. Ils craignent la résurgence de l'État islamique et un massacre des Kurdes par la Turquie. Mais interrogé sur ce risque encouru par les alliés des Américains dans la lutte contre l'État islamique, Donald Trump a répliqué
« Je ne suis du côté de personne. Je pense qu'il y a beaucoup de pression sur les Turcs. Ils se battent contre le PKK depuis de nombreuses années. Ce sont des ennemis naturels. Mais j'ai dit à la Turquie que s'ils faisaient quelque chose au-delà de ce qui est humain, ils assuraient les foudres d'une économie complètement dévastée. »
Même les plus proches de Donald Trump, comme le sénateur Lindsey Graham ou Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat, l'exhortent à revenir sur sa décision. Mais le président, qui avait déjà fait volte-face il y a près d'un an, après avoir annoncé le retour des soldats américains, semble cette fois décidé.
J'ai consulté tout le monde. Je consulte tout le monde. Je comprends parfaitement les deux parties. Mais j'ai fait campagne sur le fait que j'allais ramener les soldats et il est temps qu'ils rentrent à la maison.
Le président américain a une nouvelle fois exhorté les dirigeants européens à prendre en charge les prisonniers de l'État islamique originaires de leur pays et actuellement détenus en Syrie. Il doit y avoir une fin de la partie, a conclu Donald Trump. Sinon, nous resterons là-bas pour l'éternité. Anne Corpé, Washington, RFI.
Il faut mettre un terme à l'escalade de la violence. C'est le message qu'a souhaité faire passer le président irakien dans son discours télévisé hier soir. Une semaine maintenant que l'Irak est secoué par un mouvement de contestation inédit, une mobilisation qui exige notamment la fin de la corruption. Et alors que le bilan est de plus de 100 morts, une coalition paramilitaire chiite proche de l'Iran s'est dit prête à intervenir pour empêcher un coup d'État si le gouvernement lui ordonne. Lucille Wasserman.
Les violences continuent dans les rues de Bagdad. Elles interviennent particulièrement en fin de journée et se concentrent désormais dans le quartier de Sadr City, ce qui donne une impression d'un relatif retour à la normale dans les autres quartiers de la ville. La stratégie des forces de sécurité est de regrouper tous les manifestants dans ce quartier chiite et surtout de les empêcher d'accéder au grand point de ralliement depuis le début des manifestations, la place Tahrir Square. Face aux accusations d'une répression sanglante de la contestation, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Saad Man, a déclaré que les forces de sécurité n'avaient jamais tiré sur les manifestants et que des mains malveillantes étaient derrière ces attaques. Il a ajouté qu'une enquête était en cours pour identifier les responsables. Du côté des manifestants, beaucoup accusent les forces de mobilisation populaire d'être derrière une partie de ces attaques à leur encontre. Des accusations qui restent toutefois sans preuve aujourd'hui. Cette coalition de groupes armés proches de l'Iran et récemment intégrée à l'appareil sécuritaire irakien n'a pas directement réagi. Mais dans un communiqué, l'un des porte-parole a annoncé qu'il se tenait prêt à intervenir si besoin. Lucille Wasserman, Bagdad, RFI.
Les États-Unis épinglent 28 organisations chinoises, gouvernementales et commerciales. Washington leur reproche de jouer un rôle dans la répression des Ouïghours, cette minorité musulmane de la région du Xinjiang, enfermée ou surveillée de près par les autorités. Les organisations chinoises placées sur la liste noire américaine ne pourront plus importer des produits américains. Plus aucun apatride dans le monde d'ici 2024. C'est le défi que s'est lancé il y a quelques années l'ONU. Plusieurs millions de personnes sont aujourd'hui privées de nationalité, que ce soit en Inde, en Birmanie, en Afrique de l'Ouest et même en Europe après la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Depuis Genève, le Haut Commissariat aux réfugiés prévient la montée des nationalismes, mais aussi les lois antiterroristes risquent de créer de nouveaux apatrides. À Genève, Jérémy Lanche.
Depuis 5 ans, plus de 220 000 apatrides ont obtenu une nationalité. Le Kirghizistan est même devenu cette année le premier pays à avoir officiellement régularisé tous les cas d'apatridie sur son sol. Mais la tendance pourrait bien s'inverser selon le HCR qui constate l'augmentation d'un sentiment anti-migrant, un sentiment exacerbé par le risque terroriste, notamment en Europe. De ce point de vue, la déchéance de la nationalité pratiquée par certains États risque bien d'être contre-productive. Carole Batchelor est la conseillère spéciale du HCR sur l'apatridie.
Bien sûr, les actes de terrorisme sont très graves et ils doivent être condamnés. Mais enlever la nationalité de ceux qui les commettent n'efface pas les crimes. Ça ne résout pas le problème. Et dans certains cas, le retrait de la nationalité a des conséquences lourdes pour les enfants de ces personnes. Ces enfants sont innocents. Ils ne peuvent pas être tenus responsables pour les actes de leurs parents. They cannot be held accountable
for the crime of someone else. Il y a quelques semaines, la Suisse a d'ailleurs retiré pour la première fois la nationalité à un binational condamné pour propagande djihadiste. Un parlementaire a même déposé une motion pour demander la déchéance de la nationalité pour des faits similaires, même si cette personne devait se retrouver apatride. Le texte n'a pas encore été étudié par le Parlement suisse. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Vous écoutez RFI, les 9h passées de 7 minutes à Paris. Des quotas pour faire face à l'immigration. L'idée n'est pas neuve, mais elle est remise sur la table par le Premier ministre français. Il faut réviser nos logiciels, a martelé hier le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale en préambule du débat sur l'immigration. 6 axes de travail sont proposés par le gouvernement. Débat sans vote où chaque voix a pu s'exprimer hier, Marine de la Moissonnière.
Des quotas uniquement pour les migrants économiques. La proposition d'Édouard Philippe a séduit même l'aile gauche de la majorité, Aurélien Taché.
Il a dit en matière d'asile, de réfugiés, pas de quotas. En matière d'immigration familiale, pas de quotas. Mais par contre, sur les étudiants ou ceux qui viennent travailler, pourquoi pas réfléchir à des objectifs là où on a des besoins, dans les métiers où on peut avoir envie de recruter par nationalité. On constate qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent de tel ou tel pays. On peut les former sur tel ou tel métier. C'est la condition pour qu'ils puissent rester. Je pense que ce débat est intéressant et qu'il mérite d'être fait à l'Assemblée nationale, en effet.
Mais le débat, il n'a pas eu lieu dans l'hémicycle hier. Le Premier ministre n'a pas donné plus de précisions sur ces quotas. Peu importe pour la gauche qui est de toute façon contre l'idée. Le socialiste Boris Vallaud rappelle que même Nicolas Sarkozy y avait renoncé après avoir pris connaissance d'un rapport rédigé par un expert.
C'est un dispositif, si je me souviens des termes du rapport Mazot, mais je renvoie chacun à sa lecture, qui était à la fois irréalisable et inefficace, notamment à réduire l'immigration à l'immigration clandestine. Je ne vois pas par quelle recette magique le nouveau gouvernement aurait trouver les voies et moyens de requalifier quelque chose qui a été disqualifié.
La droite non plus n'a pas été convaincue par Édouard Philippe, le député Éric Ciotti.
Aucun réel contenu, aucune proposition courageuse, aucune audace.
Le débat va se poursuivre au Sénat demain, toujours sans vote.
Des vidéos de décapitation et surtout des données confidentielles sur ses collègues fonctionnaires. C'est le contenu inquiétant retrouvé sur une clé USB au domicile de Michael Harpon. L'auteur de la tuerie à la préfecture de police de Paris a-t-il tenté de partager ces informations? C'est désormais ce que les enquêteurs vont tenter de savoir. Une cérémonie d'hommage aux quatre victimes au sein de la préfecture et la Légion d'honneur leur sera remise à titre posthume. Hier, Christophe Castaner a promis de resserrer dorénavant les mailles du filet. Le ministre de l'Intérieur est entendu depuis plus d'une demi-heure maintenant à l'Assemblée nationale par la délégation du renseignement. Il sera entendu jeudi par la commission des lois du Sénat. Un important incendie en ce moment à Villeurbanne, près de Lyon. Un énorme panache de fumée noire visible dans toute la métropole. C'est un bâtiment de 2000 m² qui est touché par le sinistre. Encore peu d'informations pour l'instant, nous y reviendrons. Alors qu'une plainte contre X va bientôt être déposée.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeurs, bonjour. Voici la première de trois émissions que nous consacrons au dramaturge Anton Tchekhov. C'est Nadine Dubourvieux qui, en 2016, pour la collection Bouquins, chez Robert Laffont, a choisi, traduit et annoté ces centaines de lettres que Tchekhov adressa à sa famille, à ses correspondants littéraires à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à ses amis. Cette correspondance couvre la période de 1876 à 1904. Né en 1860, Anton Tchekhov mourra en 1904. Les rêves de la courte vie de Tchekhov semblent, à la lecture de ses lettres, suspendus à l'équilibre fragile entre l'écriture et la médecine, le manque d'argent et les désirs et espoirs d'hommes de lettres. Comme il le définit lui-même, si l'une, la médecine, est sa femme légitime, l'autre, la littérature, est sa maîtresse. En dépit de sa place au mi-temps de la fratrie, c'est lui le chef de famille, toujours soucieux de ses proches, en particulier de son frère, Alexandre. Comme lui, Alexandre est attiré par une carrière littéraire. Il est cependant empêché par son intempérance et un caractère velléitaire. À travers les lettres envoyées à son frère aîné, nous allons découvrir la nature des liens qui les unit et apprécier le tempérament et le talent de l'écrivain qui s'exprime au naturel.
Alexandre Pavlovitch Tchekhov, le 4 janvier 1886, Moscou. Ô douanier en quarantaine, Sacha, bonne année, bonne santé et bon nouveau-né à toi et à toute ta vallée de larmes. Que le ciel t'accorde tout ce qu'il y a de meilleur. Tu es, je suppose, fâché contre moi parce que je ne t'écris pas. Je suis fâché, moi aussi, et pour les mêmes raisons. Triple buse, pantalon, fonctionnaire géniteur, Pourquoi n'écris-tu pas ? Tes lettres auraient-elles perdu leur charme et leur force d'autrefois ? Aurais-tu cessé de me considérer comme ton frère ? Dis-moi si, après cela, tu n'es pas un porc. Écris, mille fois, écris ! Criaille, si tu veux, mais écris ! Chez nous, tout va bien, sauf que le père a encore acheté un tombereau de lampes. Il a la manie des lampes. D'ailleurs, si je la retrouve dans le bureau, je joindrai à cette lettre une rareté que je te prierai de me retourner après lecture. Je suis allé à Pétersbourg et, hébergé par Leïkin, ai enduré tous les tourments, ce qui, dans les Saintes Écritures, s'appelle « boire la coupe jusqu'à la lie ». Il m'a nourri comme un prince, mais a bien failli la brute m'étouffer avec ses mensonges. On m'a introduit à la rédaction de la Gazette de Saint-Pétersbourg, où j'ai été reçu comme le chat de Perse. Tu auras sûrement à travailler avec cette feuille, mais pas avant l'été. Ne fonde aucun espoir sur Leïkin. Il me fait toutes sortes de crocs en jambes à la Gazette de Saint-Pétersbourg. Ce sera pareil pour toi. Koudekov, le rédacteur en chef de la Gazette de Saint-Pétersbourg, doit venir me voir en janvier. C'est à lui que je parlerai. Mais, au nom d'Allah, laisse tomber par pitié tes petits fonctionnaires accablés. Ne sens-tu donc pas que le sujet a fait son temps et qu'il ne suscite plus que des bâillements ? Et où les trouves-tu donc là-bas chez toi en Asie, les tourments qu'endurent les gratte-papiers de tes récits ? En vérité, je te le dis, même à lire, c'est une horreur. Ton récit à quatre épingles est conçu de main de maître, mais tes fonctionnaires... Remplace ton fonctionnaire par un petit bourgeois satisfait, sans insister sur ses supérieurs et sur son grade, et ton à quatre épingles aura la saveur des écrevisses qui craquaient sous la dent des Rakita. Et puis, ne laisse pas abréger et remanier tes récits. Il sera odieux, en effet, de sentir la patte de Leïkin à chaque ligne. Difficile de ne pas le laisser faire. Plus commode d'employer le moyen à portée de main, abrégé, jusqu'au nec plus ultra, et remanié soi-même. Plus tu abrèges, plus on te publie souvent. Mais surtout, autant que possible, ne baisse pas la garde un seul instant, su, sang et eau, recommençant jusqu'à cinq fois, abrégeant, etc., en n'oubliant jamais que tout Pétersbourg suit le travail des frères Tchekhov. J'ai été frappé par l'accueil que m'ont réservé les pétersbourgeois. Souvorine, Grigorovitch, Bourénine, tout ce monde-là m'invitait, chantait mes louanges. Avoir écrit négligemment, par-dessous la jambe, m'a donc mis très mal à l'aise. Si j'avais su qu'on me lisait tant, je n'aurais pas tant écrit sur commande. Donc, ne l'oublie pas, on te lit. Ensuite, n'utilise pas dans tes récits les noms et prénoms des gens que tu connais. Cela ne se fait pas. C'est indiscret. De plus, ceux qu'on connaît en perdent le respect de la chose imprimée. J'ai fait la connaissance de Billy Bean. C'est un garçon très bien, auquel on peut, en cas de besoin, faire entièrement confiance. Dans 2 ou 3 ans, il jouera un rôle éminent dans le milieu de la presse pétersbourgeoise. Il finira rédacteur en chef de quelques nouvelles, ou temps nouveau. Quelqu'un d'utile, par conséquent. Au nom d'Allah, encore une fois, quand donc as-tu pris le temps de t'injecter dans le cul une pareille dose de frousse ? Tu penses étonner qui, maintenant, avec ta lâcheté ? Ce qui, pour d'autres, présente un danger, n'est, pour un universitaire, que matière à rire, d'un rire condescendant. Alors que, toi, tu fais dans ton froc, corps et âme. À quoi rime cette peur des enveloppes à en tête d'une quelconque rédaction ? Que veux-tu que l'on te fasse si on apprend que tu écris ? Tu n'en as rien à fiche. Qu'on l'apprenne, donc. Tu ne seras ni battu, ni pendu, ni chassé, que je sache. À ce propos, Leïkin, croisant le directeur de votre service à la Société de Crédit, l'a abreuvé de reproches pour les persécutions que tu subis du fait que tu écris. L'autre, confus, s'est mis à jurer ses grands dieux. Billy Bean écrit, ce qui ne l'empêche pas de travailler avec la plus grande conscience au service des postes et du télégraphe. Levinsky publie une revue humoristique et il occupe 16 fonctions. Même chez les officiers, où l'on est si strict, on n'a aucun scrupule à écrire ouvertement. Il faut cacher ce qu'on écrit, Mais se cacher, surtout pas. Mais oui, Sacha, il est temps de faire passer à la trappe, en même temps que ces gratte-papiers accablés, ses correspondants persécutés. Aujourd'hui, on est plus près de la réalité en peignant des petits fonctionnaires qui font la vie dure à leurs excellences et des correspondants qui empoisonnent la vie d'autrui, et ainsi de suite. Ne te fâche pas pour la morale, je te le dis car je trouve cela dommage, agaçant. Tu as une bonne plume, tu peux gagner 2 fois plus, au lieu de quoi tu manges du miel sauvage et des acrides, en vertu de certaines idées fausses que tu as dans le crâne. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant. La vie n'est pas facile. L'argent va arriver, probablement cet été. Ah, si seulement c'était vrai. Écris, écris ! Je pense souvent à toi et me réjouis à l'idée que tu existes. Ne fais donc pas le pantalon et n'oublie pas ton Anton Tchekhov. Nikolaï lambine, Yvan est égal à lui-même. Notre sœur est dans un tourbillon, soupirant, réunion symphonique, grand appartement. Mishka, étant poète, a donné à « Vallée de larmes » un sens singulier.
Alexandre Pavlovitch Tchekhov, Moscou, le 24 septembre 1888. Ô Saint Alexandre, Souvorine était chez moi à l'instant. Avec sa nervosité habituelle, assortie de 100 pas d'un bout à l'autre de la pièce et de regards à travers ses lunettes, il a, d'un ton larmoyant, entrepris de me confesser avoir fait une impardonnable et embarrassante bêtise qu'il ne se pardonnerait jamais. Il m'a appris qu'en montant dans le train près de Simferopol, accablé qu'il était par des pensées saumâtres et l'espèce de diphtérie dont souffrait son fiston, il avait lu ton récit « La lettre », qui n'est pas mal du tout, que celui-là ne lui avait pas plu et qu'il t'avait sur le champ écrit une lettre grossière du genre « Écrire et faire publier de mauvais récits est une chose possible, mais usurper le nom de famille d'autrui ne l'est pas », et ainsi de suite. Cette lettre avait pour seul but de passer son vague à l'âme sur le premier venu. Tu étais le premier, c'est toi qui as pris. En arrivant à Saint-Pétersbourg, Souvorine te présentera ses excuses. De mon côté, je juge nécessaire de te déclarer ce qui suit. D'usurpation d'identité et de contrefaçon, il ne saurait être question, car 1. Tout citoyen russe a le pouvoir d'écrire ce qu'il veut et de signer comme il veut, a fortiori de son propre nom. 2. Du fait que la signature « A.L. Tchekhov » ne présente pas pour moi d'inconvénients et ne me cause pas de dommages, nous avons, toi et moi, déjà parlé et nous nous sommes entendus sur le sujet. Des critères tels que « l'un écrit mieux, l'autre moins bien » n'ont absolument pas lieu d'être, car les temps changent, les points de vue et les goûts diffèrent. Qui écrit bien aujourd'hui peut se transformer demain en nullité et inversement. Le fait que j'ai déjà publié 4 livres n'est nullement un argument contre toi et contre tes droits. Dans 3 à 5 ans, tu auras peut-être 10 livres derrière toi, Devrais-je alors à mon tour te demander l'autorisation de signer Anton et non Antipe Tchekhov ? 3. Quand Souverine Fils m'avait demandé au nom de la rédaction si je n'avais rien contre A.L. Tchekhov et que je lui avais répondu par la négative, il m'avait dit « Cela vous regarde. Pour nous, plus on croise souvent le nom de Tchekhov dans notre journal, mieux c'est. » En s'excusant, Souvorine va te citer pour se justifier sa conversation avec Alphonse Daudet qui s'était plaint à lui de son frère Ernest Daudet. Cette conversation prouve seulement qu'Alphonse Daudet manque de modestie et avoue ouvertement qu'il se trouve meilleur que son frère. Elle prouve également qu'Alphonse rend la vie d'Ernest impossible. Et c'est Alphonse qui se plaint. Tant que je ne me plains pas et ne me porte pas partie civile, personne n'est en droit de te traîner devant le Synédrion. Nous ne pouvons échapper à l'heure de notre mort. Il reste peu de temps à vivre. C'est pourquoi je n'accorde grande importance ni à ma littérature, ni à mon nom, ni à mes erreurs littéraires. Je te conseille la même chose. Plus nous envisagerons simplement les questions épineuses du genre de celles abordées par Souvorine, plus paisibles seront notre vie et nos relations. A.N. Tchekhov et A.L. Tchekhov, tout ça n'est-il pas bien égal ? Laissons cela aux Bourénine et autres grossiers personnages. Quant à nous, écartons-nous. Souvorine me fait pitié, il est sincèrement désolé. Toute la famille va bien. Ton Anton Tchekhov.
Alexei Sergeevitch Souvorine, le 10 octobre 1888, Moscou. La nouvelle du prix a eu un effet fracassant. Elle s'est propagée à travers mon appartement et à travers Moscou comme le redoutable tonnerre de l'immortel Zeus. Depuis, je déambule comme si j'étais amoureux. Mon père et ma mère débitent d'atroces fadaises, en proie à une joie indicible. Ma sœur, qui veille sur notre réputation avec la rigueur et la parcimonie d'une dame de la cour, fait avec nervosité et ambition le tour de ses amis et le claironne partout. Jean Tchekhov disserte sur les yagots littéraires et les 500 ennemis que me vaudront ces 500 roubles. J'ai croisé à l'occasion les Époulensky, qui m'ont fait promettre de venir déjeuner chez eux. Rencontré une dame, amateur de talent, qui m'a, elle aussi, invité à déjeuner. L'inspecteur de l'Institut Mechanski est venu en voiture me féliciter et m'a acheté Katchanka 200 roubles pour faire sa pelote. Je pense que maintenant même Anna Ivanovna, qui nous place Tchekhov et moi moins haut que Rastrigine, m'inviterait bien à déjeuner. Les XYZ qui triment pour les réveils matins, les cigales et autres feuillets sont maintenant en alerte et envisagent leur avenir plein d'espoir. Encore une fois, je le répète, les écrivains journalistes de deuxième et troisième catégorie doivent m'ériger un monument, ou du moins me faire l'offrande d'un étui à cigarettes en argent. Je leur ai ouvert la voie d'accès aux grosses revues, aux lauriers et aux cœurs de gens de bien. c'est pour l'instant mon seul mérite, car tout ce que j'ai écrit et qui m'a valu le prix Pushkin ne survivra pas plus de 10 ans dans les mémoires. J'ai une chance terrible. J'ai passé un été splendide, heureux, pour 3 sous et sans faire de dettes particulièrement élevées. J'ai eu les faveurs à la fois du Psel, de la mer, du Caucase, de la ferme et du commerce des livres. Je touchais quelque chose tous les mois pour Au crépuscule. J'ai gagné en septembre de quoi rembourser la moitié de ma dette et écrit un petit récit de rien du tout, sur 2 feuillets, un quart qui m'a rapporté plus de 300 roubles. Une seconde édition d'Au crépuscule a vu le jour. Et soudain, comme la grêle tombée du ciel, ce prix ! J'ai tant de chance que je commence à considérer les cieux d'un œil soupçonneux. Je vais au plus vite me cacher sous ma table et j'y resterai tranquillement, sagement, sans élever la voix. Tant que je ne me déciderai pas à franchir un grand pas, c'est-à-dire tant que je n'aurai pas écrit un roman, je vais me tenir tranquillement et discrètement à l'écart, écrire de petits récits sans prétention, de petites pièces, ne pas m'aventurer à de grands hauts et de grands bas, mais fonctionner régulièrement, comme le fait le Pou de Bourénine. Je vais écouter le conseil de ce cocol qui m'a dit « Ah, des fois que je serai tsar, je faucherai 100 roubles et je la fermerai. » Étant, pour l'instant, petit tsar dans ma fourmilière, je vais faucher 100 roubles et prendre la fuite. Voilà que du reste, je me mets, semble-t-il, à écrire des falaises. Pour l'instant, on parle de moi. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faudrait faire paraître maintenant 3 annonces successives concernant mes 2 livres, et une le 19, quand le prix sera rendu officiel. Je vais planquer les 500 roubles pour acheter une ferme. Le produit de la vente des livres connaîtra le même sort. Ah, que faire avec mon frère ? C'est une vraie catastrophe. Quand il est à jeun, il est intelligent, timide, sincère et doux. Mais quand il est ivre, il est insupportable. Après 2 ou 3 petits verres, il est dans un état d'excitation extrême et se met à mentir. Il a écrit cette lettre armée du désir effréné de dire, d'écrire ou de commettre je ne sais quel mensonge inoffensif, mais spectaculaire. Ah, il n'en est pas encore aux hallucinations, parce qu'il boit relativement peu. Je sais reconnaître à ses lettres s'il est à jeun ou s'il est ivre. Les unes sont profondément honnêtes et sincères, les autres mensongères du début à la fin. Il souffre de dipsomanie, c'est une évidence. Qu'est-ce que la dipsomanie ? Ben, c'est une psychose, comme la morphinomanie, l'onanisme, la nymphomanie, et ainsi de suite. La dipsomanie est le plus souvent héritée du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère. Mais nous n'avons pas d'ivrogne dans notre lignée. Ah, mon grand-père et mon père prenaient parfois de belles cuites avec leurs invités, mais cela ne les empêchait pas de se remettre au travail à temps ou de se réveiller pour les matines. Le vin les rendait placides et spirituels. Il égayait les cœurs et stimulait l'intelligence. Mon frère instituteur et moi, nous ne buvons jamais en solo. Nous ne connaissons rien au vin, mais pouvons boire autant que nous voulons et nous réveiller la tête claire. Cet été, avec un professeur de Kharkov, l'envie nous a pris de nous saouler. Nous avons bu tant et plus, puis finalement abandonné car c'était sans effet. Nous nous sommes réveillés au bon matin comme si de rien n'était. Alors qu'Alexandre et l'artiste perdent la tête au bout de 2 ou 3 petits verres et ils ont par moments un besoin irrépressible de boire. Ah, de qui tiennent-ils ? Dieu seul le sait. Mais à ma connaissance, Alexandre ne boit pas pour rien. Il se saoule quand il lui arrive d'être malheureux ou découragé par quelque chose. J'ignore son adresse, mais si cela ne vous dérange pas, envoyez-moi s'il vous plaît son adresse personnelle. Je lui écrirai une lettre d'enquelade politico-affectueuse. Mes lettres lui font de l'effet. Je suis content que mon éditorial ait servi à quelque chose. Le récit sur le jeune homme et la prostituée dont je vous avais parlé a été envoyé pour le recueil de Garchine. Je n'ai pas le cœur serein. Vétille que tout cela du reste. Mes salutations à tous les vôtres. J'ai envoyé au calendrier la liste des médecins. Il a fallu tout refaire. Si vous le permettez, l'année prochaine, je prendrai sur moi toute la médecine calendaire. Je m'en occuperai de bon cœur pendant l'été. Portez-vous bien et soyez serein. Votre Anton Tchekhov. Maslov m'écrit « On me transmet pour la deuxième fois votre conseil de me marier. » Que signifie ce conseil, noble sœur ?
À Alexandre Pavlovitch Tchekhov, les 27 et 29 mars 1895, Melikovo. Vénérable frérot, en mettant de l'ordre dans mes archives, je classe mes lettres par groupe. Les lettres d'écrivains, avec celles des écrivains. Celles de la famille, avec celles de la famille. En ce qui concerne les vôtres, je me trouve dans le plus complet embarras, ne sachant où les ranger. Avec celles des écrivains ou celles de la famille. Afin de ne heurter ni vos sentiments d'écrivain ni vos sentiments familiaux par une quelconque préférence entre l'un de ces deux groupes, j'estime plus commode pour le moment de classer les vôtres dans la catégorie des lettres de sollicitation, étant donné que vous êtes quelqu'un de pauvre et adonné à la boisson. Dans ces archives, j'ai trouvé beaucoup de lettres et de documents qui vous appartiennent, et n'ont d'intérêt que pour vous seul. Ces papiers ont été cachetés. Je vous les remettrai quand nous nous reverrons à Melikovo, où nous vous attendons pour la semaine sainte. Le printemps est arrivé. Les volatiles, au mépris de toute décence, satisfont en cœur leurs besoins naturels et transforment ainsi mon jardin et mes forêts en une sorte de maison de tolérance. Toute la Sainte Famille te salue. Notre mère reçoit notre pain quotidien. Elle est très contente. Avec ma sincère considération, j'ai l'honneur d'être votre frère et bienfaiteur, Anton Tchekhov. P.S. Dites-nous quel jour vous arriverez pour que nous puissions vous préparer une place à l'office. Les veaux vous saluent bien. Mes très respectueuses salutations à Natalia Mikhailovna, Kolia, Anton et Mikhail, et mon immuable bénédiction pour les siècles des siècles. En raison de la débâcle, cette lettre n'a pris la direction de la gare que le 29. Les étourneaux et les alouettes sont de retour. Bonne fête!
Alexandre Pavlovitch Tchekhov, le 23 septembre 1896, Melikovo. Bonjour Tchekhov. Je suis allé à Taganrog. C'était sinistre à crever. J'ai vu Pavel Ivanovitch, il est encore vivant et a toujours du succès auprès des femmes. Je suis allé aussi à Novorossiysk. C'est une ville épatante. Et quelle ferme aux environs! Je crois que si tu avais continué à travailler là, tu serais depuis longtemps propriétaire terrien. Il y a beaucoup d'usines, des Français, un restaurant superbe, un élévateur, du transit, du conflit. Pour le manuscrit, rassure-toi, j'ai déjà écrit à Moscou. Aujourd'hui même, je vais écrire à Souvorine qu'il arrête de te publier, car le public se plaint. Je viendrai à Saint-Pétersbourg autour du 6 octobre. Tu dois m'accueillir à la gare en complet uniforme d'apparat. devenu officier des douanes à la retraite. Mère est très contente que ton Nicolas et ton Anton soient entrés au collège. Moi aussi. Le 17 octobre, ma nouvelle pièce sera jouée au théâtre Alexandrinsky. Je te dirai bien quel en est le titre, mais je crains que tu n'ailles te vanter partout que c'est toi qui l'as écrite. À bientôt donc. Porte-toi bien. Salut pour moi toute ta famille. Ton bienfaiteur, Anton Tchekhov.
Где бы ни был казак в дальнем боевом походе, али в окопе, ожидая вражеской атаки, он всегда думал о своем доме, о любимой Али, о жене.
Когда мы были на войне,
когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой Али, о жене. Там каждый думал о своей любимой Али, о жене.
И я, конечно, думать мог,
и я, конечно, думать мог, когда на рубашку глядел на голубой ее дымок, когда на рубашку глядел на голубой ее дымок.
Как ты когда-то мне лгала,
как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала.
Александр Павлович Чехов, fin février 1897, Melikovo. Alexandre Vissarionovitch, mon aimable frère. J'ai appris non sans regret par ta lettre que tu avais été congédié par fils de la patrie. Et je crains désormais que ce bon monsieur Souvorine n'agisse de même à ton encontre. Resté sans emploi, tu vas t'adresser à moi pour obtenir de l'aide. Mais je te préviens tout de suite que tu n'auras pas un copec. Qui se permet des mots d'esprit stupides dans ses lettres aux aînés ne mérite aucune considération. Il faut travailler dur et se croire un peu moins sorti de la cuisse de Jupiter. Il faut aussi prendre exemple sur plus âgé que soi. Chez nous, tout va bien. Le nouveau chien courant a égorgé Bouboule. Ce dernier s'en est allé à de patresse. Quinine met bas ponctuellement 3 fois par an, produisant chaque fois un curieux mélange de chien de ferme et de crocodile. Il fait froid. Visiblement, il est encore loin le temps où éclatent les faisceaux ligneux. Tichinkin m'avait appris qu'il viendrait à Melikovo. Je l'ai attendu durant toute la semaine, des 7 jours gras, mais il y a maintenant peu de chances qu'il vienne car les cours ont repris. Une requête maintenant. À l'automne dernier, le bureau des théâtres impériaux m'avait envoyé un contrat pour que je le signe et le lui retourne accompagné d'un rouble 25. Je l'ai signé et après y avoir joint un rouble 25 en timbre-poste, je l'ai envoyé à Souvorine en lui demandant de le lire puis de le renvoyer au bureau. Peu après, ayant besoin d'argent, j'ai envoyé une lettre au bureau demandant que l'on me fasse parvenir les honoraires pour mes pièces. Le bureau m'a répondu qu'il ne m'enverrait rien tant qu'il n'aurait pas reçu le contrat. Il se peut donc que ce bon monsieur Souvorine ne l'ait pas envoyé. Aie la bonté pour éviter de mécontenter et de te voir reprocher ta négligence, d'enfiler ton pantalon et de passer voir Souvorine. Demande-lui où est le contrat. Où sont les timbres et pour quelles raisons il évite obstinément de répondre à mes lettres. Il me faut cet argent coûte que coûte, car je fais de nouveau construire une école. Si tu ne t'exécutes pas, j'en viendrai à penser que c'est toi qui as touché mes honoraires. Ce que d'ailleurs je soupçonne, car difficile d'admettre que tu aies pu acheter un saumon entier sur tes propres deniers. Je ne me porte pas trop mal, mais je tousse. Je souffre d'un œil. J'ai l'impression d'avoir une pièce de monnaie dans le ventre. Je t'ai déjà écrit que notre mère avait eu une phlébite assez sérieuse. Elle va bien maintenant et fait carême. Ivan conseille de ne pas se marier. est de bonne pensée et, dans la mesure du possible, mène une vie décente et ne nous cause point de chagrin par ta conduite. Ton frère et bienfaiteur, Anton Tchekhov. PS, j'attends une réponse au plus vite.
На горе стоял казак, он о Богу молился, за свободу, за народ, а резко поклонился.
А Александр Павлович Чехов, le 3 octobre 1897, Nice. Ô parents pauvres, tandis que je passe ma vie en Europe occidentale avec les aristocrates, à manger des huîtres et du turbo, toi, tu dois te nourrir de lentilles et ne pas oublier qui tu es. Je suis à Nice, où probablement je vais rester longtemps, avec pour adresse Nice, pension russe. Pour ce qui est de l'Algérie, rien n'est encore décidé. Elle n'a pour l'instant aucun caractère de nécessité. À Nice, il fait chaud, les vents sont bien disposés, on se fait piquer par les moustiques. Tout serait pour le mieux. Mais l'oisiveté est devenue accablante. On va, on vient, et bon gré mal gré, on finit par prendre en estime le labeur physique. Les Russes sont nombreux. On est obligé de beaucoup manger, beaucoup parler. Étant donné que mon Ivanov, homonyme du cactus conchier, se joue au Théâtre National, tu vas de nouveau avoir la possibilité d'empocher mon argent et de le dépenser. Ainsi, après 5 ou 6 représentations, vais-je t'envoyer une procuration rédigée par le vice-consul des lieux, un vieillard kakoshim, tellement kakoshim que sur sa tête chauve transparaissent nettement les sutures crâniennes. Tu m'écris que Natalia Alexandrovna se badigeonne le pharynx avec un mélange d'iode et de glycérine. Ne perds pas de vue que le pharynx est un instrument très sensible qui s'accoutume très vite aux applications et gargarismes. Le meilleur moyen de lutter contre un catarrhe du pharynx est un traitement général, de même que cesser de fumer, ne pas absorber de boissons brûlantes, ne pas respirer un air chargé de poussière et parler le moins possible. Je reçois des lettres de la maison. On me dit que ton Nikolai est venu à Melikovo. Écris-moi si le cœur t'en dit. Si te tombe sous les yeux un numéro de journal qui, pour une raison ou une autre, te semble intéressant, envoie-le-moi, affranchi d'un timbre à 2 kopecks. Nous n'avons ici que Temps Nouveau et le bulletin russe, le premier à disposition dans le salon de lecture du casino de Monte-Carlo, le second m'est envoyé de Moscou. Et si tu venais à Nice pour les fêtes de Noël? Ici, en décembre, il fait un temps estival. La vie est peu chère. D'ailleurs, tu n'es encore jamais allé à l'étranger et tu ne sais même pas à quel gouverneur et quel député commerciaux on a ici affaire. Porte-toi bien et transmets mes respectueuses salutations à Natalia Alexandrovna ainsi qu'à Anton et Misha. N'oublie pas mes bienfaits. Écris-moi. Ton Anton Tchekhov.
La relation qu'Anton a développée avec Alexandre est exemplaire de celle que cet auteur a entretenue avec ses semblables, chaleureuse et sans concession. Les différentes apostrophes de ces lettres en témoignent. Vénérable frérot, ô parent pauvre, ô saint Alexandre, mais aussi faux dramaturge que mes lauriers empêchent de dormir, et alcoolismus. Quant aux formules précédant sa signature, elles sont éloquentes. Ton bienfaiteur, je te bénis. Et cette formule fameuse à la fin de la lettre du 18 janvier 1887. Implorant votre bénédiction, nous demeurons vos fidèles frères et sœurs qui vous aiment. Antonin et Medzine Tchekhov. En plus de ma femme, la médecine, j'ai aussi la littérature pour maîtresse. Mais je ne l'évoque pas, car ceux qui vivent hors la loi mourront hors la loi. Cette émission a été préparée et lue par Anne, Marie et Yvan. Les intermèdes musicaux sont des chansons traditionnelles russes.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5 FM.
Je veux voir ma chambre tout de suite. Maintenant, ça suffit. J'ai téléphoné très tôt ce matin aux aurores. J'avais prévenu l'automne depuis l'été dernier. Je veux qu'on me donne cette chambre que vous m'avez préservée comme un doux présage. S'il vous plaît, monsieur le gardien, j'ai ramené mes chiens, mais ils ne feront de mal à personne. C'est au cas où je me sens trop seule. Au moins, j'ai les chiens. Ils chantent pour moi, ils hurlent un peu à la mort, mais ça fait du bien dans ce décor. I was looking for you in your shadow. Nobody was here in the ghost I saw. I was looking for you in your shadow. Nobody was here in the ghost I saw. J'ai besoin de quelqu'un, d'un cocon, d'une coquille plus solide. Faut me tanner un peu la couenne et m'attendrir les bords. J'ai besoin de repos plein, de vide rempli, de sommeil vivant, gorgé de soleil, le vent. Des étoiles dans ma poitrine, du fil doré. Je me rappelle très bien de ce qu'il a dit. Vous verrez, ça vous fera du bien. On va vous retaper le cosmos. On vous laissera pas tomber dans la fosse aux serpents glacés. Je me rappelle très bien de ce qu'il a dit. Non, je ne déforme rien. Je me rappelle très bien de ce qu'il a dit. I was looking for you in your shadow. Nobody was here in the ghost I saw. I was looking for you in your shadow. Nobody was here. Écoutez, poussez-vous ou je lâche les chiens. Non, je ne déforme rien. Écoutez, poussez-vous ou je lâche les chiens. Non, je ne déforme rien. Écoutez, poussez-vous ou je lâche les chiens. Je suis sûre que quelqu'un m'attend. Je ne suis pas toute seule. J'ai 12 chiens qui m'accompagnent et des milliers d'étoiles dans la tête. Bonjour. 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 Je cherche la bobine de fil doré.
Mmh.
voyage.
De l'aune, et le soleil tatoue sa peau, c'est beau comme Baudelaire. Le sable est trop chaud, Aldo la porte jusqu'à la moto, c'est beau. Comme Baudelaire à la villa, les vins sont prêts et les Anglais sont déjà là. La vie à la villa est douce et bonne, même c'est beau comme Baudelaire. Aldo n'en peut plus, il monte sa moto, part vers l'inconnu, c'est beau comme Baudelaire. À la villa, voilà la nuit. nuit. Et les Anglais.
Radio G. www.radio-g.fr.